autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ? Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, au temps des dinosaures ou presque, avec Nicolas Benita à la réalisation, pour un troublant face-à-face avec T-Rex. Tyrannosaurus Rex, le plus fascinant, le plus imposant, le plus célèbre et le plus féroce de tous les dinosaures. Un mythe qui fut une réalité que l'on peut approcher, et c'est une première, au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, qui expose pour la première fois donc le véritable squelette de Trix, femelle T-Rex de 67 millions d'années, qui devait avoisiner les 8 tonnes de son vivant, exhumé dans le Montana aux États-Unis dans un état de conservation remarquable, avec notamment un crâne complet et une de ses mâchoires que seuls les paléontologues comme notre invité Ronan Alain rêvent d'explorer. Plongé dans le monde perdu des dinosaures avec le paléontologue Ronan Alain et avec Cécile Collin-Fromont, responsable de la galerie d'anatomie comparée et de paléontologie du muséum, autour de la question pourquoi et comment T-Rex est arrivé à Paris. Bienvenue. Bonjour Cécile Collin-Fromont.
Bonjour.
Bonjour Ronan Alain.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour ouvrir cette saison de paléontologie au muséum avant le congrès international de paléontologie autour de Trix, cet incroyable et véritable spécimen de T-Rex exposé à Paris pendant 3 mois. Ronan Alain, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes des dinosaures en France, paléontologue, chercheur et enseignant au muséum. Vous êtes aussi un paléontologue de terrain, découvreur entre autres d'un sympathique spinosaurus, carnivore de quelques tonnes au Laos, auteur de nombreux ouvrages scientifiques et grand public. Pour vous, Ronan, c'est, j'imagine, une chance, c'est quoi, presque un rêve, que de pouvoir approcher et étudier de si près un spécimen tel que Trix?
Alors, une chance, ça c'est certain. En même temps, du coup, je ne peux pas voyager aux États-Unis pour aller voir les tyrannosaures, puisque les tyrannosaures viennent jusqu'à moi. Non, c'est vraiment une chance, surtout d'avoir accès à un spécimen aussi complet, aussi joli. Et puis d'avoir du temps pour la regarder, de pouvoir tourner autour, puisque de temps en temps, c'est vrai que quand on va voir les collections dans les pays étrangers, on part une semaine ou deux, on a plein de choses à voir. Là, voilà, je peux passer un petit peu plus de temps avec Trix et puis faire le tour de la question.
C'est ça, et de l'interroger à chaque fois. Vous nous la décrivez un peu, Trix. On est à la radio, hein, c'est difficile de... On la connaît dans notre imaginaire et par les films, hein, on sait ce que c'est qu'un T-Rex, mais ce squelette est quand même très impressionnant.
Alors, c'est un T-Rex, donc c'est peut-être le plus facile de décrire un T-Rex qu'un autre dinosaure. Donc un T-Rex, c'est avant tout un énorme crâne. Donc là, on a un crâne qui fait dans les 1m70, 1m80 de long.
Le crâne.
Le crâne, simplement le crâne, sur une longueur totale de corps de 12m50. Donc ça fait déjà un crâne qui représente une bonne proportion. Et ce crâne est très grand, mais il est très gros, très large aussi. Hein. Il est très puissant. Après, on a un cou qui est vraiment très court. C'est normal, puisque le crâne est gros, il faut que le cou puisse le supporter. Donc on a tendance plutôt à raccourcir le cou. Après, on a une énorme cage thoracique. Et puis surtout, sur cette cage thoracique, on a l'autre caractéristique du tyrannosaure, c'est ces deux petits membres antérieurs qui sont atrophiés, qui sont ridiculement petits par rapport à la taille de l'animal. Donc voilà. Et puis après, on a une queue qui va venir contrebalancer tout ça. La queue est quasiment fait près de 5 mètres de long, donc elle est là pour faire contrepoids de l'animal. Et des pattes très très puissantes, très musclées aussi, parce qu'il faut faire avancer la machine.
La machine, comme vous dites. Cécile Collin-Fromont, alors vous êtes responsable de la galerie d'anatomie comparée de paléontologie du muséum, qui fête, hein, on peut le rappeler, ses 120 ans cette année, et qui abrite de formidables spécimens de dinosaures et d'autres animaux. Mais là, on peut dire, effectivement, avec ce que vient de nous expliquer Ronan Alain, que c'est une autre dimension, à la fois physique et symbolique. Est-ce que pour vous aussi, l'arrivée de Trix et son installation provisoire pour cette exposition, c'est un événement, c'est une rencontre?
Oui, déjà, on peut répondre à nos visiteurs qui nous demandent où est le T-Rex de la galerie. Bon, il n'est pas dans la galerie, il est dans la salle à côté,
oui,
mais
ça,
voilà, on peut aller un petit peu plus loin, parce que dans la galerie de paléontologie, on n'a qu'un crâne, et beaucoup de visiteurs sont déçus qu'on n'ait pas plus, et donc là, pour 3 mois, on a le squelette complet, et pour préciser, là, enfin, je trouve ce qui est impressionnant dans ce qu'on voit par rapport à ce que Ronan a décrit, c'est la position qu'on a donnée à ce T-Rex qui est très particulière, et quand on arrive devant, on tombe nez à nez avec le T-Rex. On a vraiment cette énorme tête.
Oui, parce qu'elle est un peu penchée vers l'avant.
Elle est penchée vers l'avant. On a l'impression qu'elle est placée pour sauter sur nous, peut-être, sauter sur la proie.
Et ses dents, parce qu'effectivement, on n'a pas parlé de ses dents.
Beaucoup de dents et des grandes dents qui peuvent laisser l'imaginaire aller où on veut.
Autour de la question comment T-Rex est arrivé à Paris, je propose de partager l'émoi des visiteurs justement de cette exposition Un T-Rex à Paris, face à face au micro d'Alice Milo.
On est devant un T-Rex et je suis ravie parce que j'ai toujours rêvé de rencontrer des dinosaures et on en a parlé à l'école et je me disais j'aimerais bien en voir un pour de vrai. Il est très grand, il a l'air assez féroce.
Moi ce qui m'impressionne beaucoup c'est sa tête en fait, avec la taille des dents, la taille de la bouche. C'est vrai que nous on est venus avec nos deux filles de 3 et 5 ans, puis bah, à côté elles font toutes petites. Donc oui c'est saisissant, les enfants se resserrent contre nous. Non c'est vrai que c'est extraordinaire, hein. C'est vraiment à voir.
C'était moi qui ai la plus excitée de voir un vrai T-Rex en fait. Et je trouve ça formidable de se trouver en face d'ossements qui ont 66 millions d'années. Quoi. Enfin, je veux dire, les momies, elles en ont que 5 finalement, 5000 ans.
Ce que je ne savais pas, ce dont j'ai pris conscience, c'est la somme de travail qui avait été nécessaire pour reconstituer ce squelette. C'est formidable comme entreprise humaine. Je trouve ça magnifique.
On le sort de l'imaginaire des films. On dit, bah oui, en fait, il a réellement vécu. Il y a ça aussi, que bon, à force qu'on le voit dans les films, que les enfants dans les livres, ça reste, on le rentre dans les contes de fées, on va le rentrer dans la science-fiction et plus dans l'histoire. Et je pense que l'expo permet aussi de rappeler à l'ordre sur ce point-là.
Voir un T-Rex, c'était un petit peu mon rêve. Quand je serai grand, j'ai envie d'être paléontologue.
En arrivant à Paris, j'ai annulé une réunion trop sérieuse, et je suis allée directement voir le T-Rex au Muséum d'Histoire Naturelle.
Et alors le T-Rex ?
Une merveille ! Oh, mais le choc ! Sa tête, là, face à vous, et puis l'inutilité de ce grand corps, la beauté de l'inutilité, enfin, mon Dieu, mais que tout ça est beau !
C'est la metteuse en scène Masha Makeyev, directrice du Théâtre de la Criée à Marseille, qui partageait avec nous, à la fois qu'elle avait raté une réunion pour aller voir T-Rex, mais également évidemment son émerveillement devant la beauté de T-Rex, l'inutilité aussi, elle dit, de cet énorme squelette de dinosaure, Ronan Alain. Vous voulez réagir à tout ce qu'on vient d'entendre ?
Ah, il y a beaucoup de choses. J'ai adoré les enfants qui parlent au début, qui parlent de vrai.
T-Rex.
Oui, mais qui parle surtout de vrai, de réalité. Mmh. C'est vraiment le travail du muséum d'expliquer que le T-Rex, c'est pas juste un animal qu'on va utiliser dans les films ou dans les livres, que les T-Rex qu'on voit dans les films, ils sont animés. Donc là, pour le coup, on n'est pas forcément toujours sur la réalité, mais là, vous êtes face à quelque chose de réel. Donc déjà, c'est aussi la réalité de l'évolution que vous avez devant vous. Donc c'est quelque chose d'assez profond, ce qu'ils racontent les enfants et ce que disent les adultes aussi, de se dire, ah, tiens, là vraiment, on touche quelque chose qui a existé.
C'est ça qui est vraiment troublant d'ailleurs. C'est ça qui nous trouble, je pense, le plus.
Oui, parce qu'en fait, ça nous ramène en dehors de la grosseur de l'animal qui va nous choquer, ce qui est tout à fait normal puisqu'on n'a pas l'habitude d'avoir des animaux de cette taille-là. Ça nous ramène aussi un petit peu à la fragilité de n'importe quel être vivant et de montrer que des gros animaux aussi grands, forts et puissants que le tyrannosaure ont pu disparaître à un moment. Donc ça peut aussi nous permettre de nous poser des questions sur tout un tas de choses. Très à la mode d'ailleurs.
Absolument. Ça nous renvoie évidemment à nous-mêmes, ça on va y revenir, mais c'est vraiment le plus grand carnivore.
Oui,
qui n'a jamais existé.
Oui, c'est pas juste. On dit pas juste ça pour amener les gens à le voir. C'est vraiment à l'heure actuelle les plus grands squelettes de carnivores qu'on connaisse, qui marchaient sur la Terre. Oui.
Et donc ces plus gros carnivores, ce T-Rex n'existe qu'aux États-Unis. C'est là qu'on les a exhumés. Et il est rare d'avoir un squelette entier avec un crâne aussi impressionnant et lui aussi complet.
Alors c'est très rare, on n'a que 4 ou 5 squelettes qui sont complets à plus de 60-65%, donc là c'est le cas avec Trix. C'est des animaux, effectivement, qu'on ne trouve qu'aux États-Unis parce qu'ils vivaient à un temps très précis, il y a à peu près 67, 66 millions d'années. Ils vivaient qu'en Amérique du Nord, donc c'est normal qu'on ne les trouve pas sur les autres continents. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'on a tendance à faire du T-Rex le prédateur que tout le monde connaît, donc on a l'impression que tous les dinosaures sont comme lui. Et là, on en revient sur l'inutilité de ce grand corps. Non, ce grand corps, il n'est pas inutile du tout, justement. Ce grand corps, il répond à quelque chose. Et en fait, le T-Rex, c'est un dinosaure carnivore qui est hyper spécialisé. Il est hyper spécialisé dans quoi ? Dans « j'attaque des gros dinosaures, je mange du gros dinosaure ». Et pour manger du gros dinosaure, il a besoin lui-même d'être très grand, il a besoin d'avoir une musculature très développée au niveau des mâchoires, il a besoin d'avoir des grandes dents. Donc en fait, tout est placé dans le crâne chez le T-Rex, et ce grand crâne va nécessiter aussi derrière un corps qui correspond. Donc la grosseur n'est pas inutile, en fait la grosseur de cet animal, elle tient compte de son adaptation à chasser des dinosaures de très grosse taille.
Alors, il est extrêmement gros. Il y a une autre particularité sur ce magnifique fossile de T-Rex, donc cette femelle T-Rex. Elle a des sortes de côtes sur l'abdomen. À quoi ça servait ?
Alors, elle a des côtes qu'on va retrouver aussi en particulier chez les oiseaux. Alors, en fait, l'homme n'a pas inventé la bipédie. La bipédie existe bien avant l'homme, chez des ptérosaures, mais surtout chez les dinosaures. Et vous imaginez votre dinosaure qui fait 12 mètres 50 de long. Quand vous voyez
8
la cage, voilà, 8 tonnes, vous voyez la cage thoracique de T-Rex, c'est énorme. Vous imaginez la taille du cœur. J'ai aucune idée vraiment de sa taille, mais le cœur devait être énorme. Il faut que tous ces organes qui se trouvent dans la cage thoracique soient soutenus. Donc l'animal, ces animaux ont développé sans doute en lien avec la bipédie, ce qu'on appelle des gastralia, c'est un petit peu comme nos côtes flottantes si vous voulez, qui vont permettre de fermer la cage thoracique et qui vont soutenir l'ensemble des viscères à l'intérieur de la cage thoracique. Donc c'est très important pour ces animaux-là d'avoir ces structures-là.
Pour un paléontologue comme vous, on va parler d'autres dinosaures, il y a une grande variété de dinosaures. Quel est l'intérêt, vous dites que vous pouviez tourner autour de T-Rex, de cette femelle T-Rex, de poser des questions. Quel est l'intérêt d'étudier des dinosaures pareils aussi monstrueux ?
En fait, on n'étudie pas... Alors, quand vous êtes paléontologue, il y a des champs de recherche qui sont infinis. On peut faire tout ce qu'on veut en paléontologie. Vous imaginez la façon dont on étudie les animaux actuels. On peut faire pareil avec les animaux fossiles. Donc chaque paléontologue va avoir une approche différente. Moi, mon approche, elle est plutôt historique. Ce qui m'intéresse, c'est d'étudier l'anatomie et grâce à cette anatomie, d'essayer de reconstituer l'histoire des dinosaures, en particulier les dinosaures carnivores qui m'intéressent le plus. Donc pour faire ça, j'ai besoin de regarder un squelette, de l'étudier en détail. Donc là, je ne regarde pas juste l'os comme ça, je vais regarder chaque apophyse, chaque détail de l'os, et de comparer cet os-là, c'est les techniques de l'anatomie comparée que Cuvier a inventées il y a déjà 2 siècles, de comparer l'anatomie de mon dinosaure avec ceux d'autres dinosaures. Et à partir de là, on va essayer de reconstruire l'histoire des dinosaures, l'arbre généalogique, quasi, presque, c'est pas possible, mais bon, l'arbre généalogique des dinosaures. Et justement, pour comprendre leur évolution au sein d'écosystèmes qui vont bouger énormément en 160 millions d'années, de continents qui bougent, de rencontres de dinosaures avec d'autres dinosaures. Donc en fait, on fait de l'histoire, si vous voulez, sauf qu'on s'intéresse pas à l'homme, on fait de l'histoire, nous, sur des animaux.
Sur des animaux, et à partir d'os, une des visiteuses parlait de ça, cette reconstitution extrêmement méticuleuse, parce qu'il faut arriver à remettre dans le bon ordre les os de ce monstrueux T-Rex.
Les visiteurs, là, il y a eu le mot d'aventure humaine aussi. Quand vous faites une exposition, c'est aussi une aventure humaine. Vous ne faites pas une exposition tout seul, il n'y a pas juste un commissaire scientifique. Il y a tout un tas de personnes qui ont travaillé autour de cette exposition. Il y a les découvreurs déjà au départ, il y a la volonté de faire cette découverte, et puis il y a un travail colossal en amont avec des dizaines et des dizaines de métiers qui ont été convoqués pour pouvoir remonter ce squelette-là. Il faut des anatomistes, il faut des paléontologues, mais il faut des gens qui sont capables de faire de socler des choses qui ont un poids incroyable. Donc il y a vraiment une aventure humaine aussi derrière tout ça. J'ai beaucoup aimé cette remarque de la visiteuse.
Justement, pour cette aventure humaine, comment elle a été découverte, cette fabuleuse, fascinante, effrayante T-Rex ?
Alors c'est assez étonnant, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cas dans l'histoire de la paléontologie. Ça part d'une volonté affichée de nos collègues du musée naturaliste de Leiden.
Aux Pays-Bas,
voilà. Ils décident de refaire leur musée. Donc leur musée, là, ça va réouvrir en 2019. Ils ont un très beau projet architectural. Et au milieu de ce musée, ils veulent une pièce phare. Et la pièce phare, ils ont décidé que ça serait un T-Rex. Donc ils ont décidé ça en 2012.
Il fallait trouver le T-Rex.
Le problème, c'est que le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Et donc il faut trouver un T-Rex. Et donc ils vont contacter le Blackie Institute, qui est un institut de recherche privée de paléontologie aux États-Unis. Donc qui se trouve pile poil dans les endroits où il y a des T-Rex.
Montana,
Wyoming, Dakota, et puis de l'autre côté de la frontière, le Saskatchewan et l'Alberta.
Au Canada.
Et donc voilà, le Blackie Institute a l'habitude de chercher dans ces coins-là, donc ils savent très bien où chercher, où trouver. Et donc ils vont se mettre à la recherche d'abord d'éléments en surface pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose. Et ils vont repérer plusieurs sites, et en repérant ces sites, les collègues hollandais vont aller avec eux sur le terrain. Ils vont commencer à fouiller. Il y a un premier site qui ne va rien donner, ou pas grand-chose. Et c'était en 2012, je crois en septembre, octobre 2012. Et 7 mois après, ils retournent aux États-Unis. Et là, il tombe sur un site et il tombe sur Trix. Donc, en fait,
C'est complètement fou comme histoire.
Alors, ils ont creusé. Hein. Mais c'est le même principe que toujours en paléontologie. Vous allez sur le terrain, vous repérez des traces en surface, vous allez voir apparaître un os, deux os. Vous commencez à creuser, et puis là, au bout d'un moment, vous voyez apparaître plein de choses. Et un crâne entier.
Autour de la question pourquoi et comment T-Rex du Montana est arrivé jusqu'à Paris, on continue de s'interroger autour des dinosaures du Jurassique et du Crétacé, à l'écoute du groupe Jurassic 5. Got to understand.
Autour de la question.
Trying to tell you the deal from my perspective. The J5 collectible rack, cause you got to keep it together and try.
You might wanna say I'm a lot, but you got to understand.
We're more than neat stuff. Third eye, words fly, ripping from my third eye view.
I ain't hating, I just heard better. Up the ante on the game and apply the pressure. Understand I was a fan before I was a member of your favorite rap band. Understand that I'm still a fan.
And you can complain after the fact, related to the game that came after crack. Cause every nigga I know is out to get a plaque. Yeah. So why you wanna go and do that, love, huh?
I don't know, man, cause we seen fiends who dream cream, ripping the quest through special effects and green screens. And it seems you either be the one that flashed that cannon or signing autographs to the last cat standing.
Brother, pass that action, the attraction is real. Your only way you're coming up is probably inking the deal. While you're thinking the skills, some are thinking the mills. And they're never in the quest to get that house on the hill.
And that's real.
You got to
speak the truth for real.
You might wanna say I'm a lot, you got to understand.
We're trying to tell you the deal from my perspective. The J5 collectible rack, cause
you got to
keep it together and try.
You might wanna say I'm a lot, but you got to understand.
We're more than neat stuff. Third eye, words fly, ripping from my
I need some side. Understanding in this world between me and my girl. She wants the diamonds and the pearls and be a part of my world. 24/7, but love don't pay the rent. So love me when I'm home and cherish the moment.
Cause some of you women are men's mirrors. I know some women who dodge balls like Ben Stiller. Please understand it's not to offend or seem bitter, but every queen need a king with her.
Yeah, Miss Thing, I don't know. Whenever I leave, you ready to go. My mama told me about how it flow, but I didn't wanna listen, but she told me so.
Jurassic 5, autant des dinosaures sur RFI Got to Understand, en compagnie de nos invités, le paléontologue Ronan Alain et Cécile Collin-Froment, qui est en charge de la galerie de paléontologie du muséum, autour de la question pourquoi et comment T-Rex, ou plus exactement la femelle Trix, est montée à Paris. Sacrée aventure déjà. Vous venez nous raconter, Ronan, comment vos collègues du musée de Leiden, vos collègues paléontologues ont découvert, en décidant de découvrir un T-Rex avec un crâne entier, mais sacré voyage, sacrée installation. Rien que pour porter le crâne de T-Rex, il pèse combien le crâne de Trix ?
200 kilos.
200 kilos le crâne.
200 kilos avec le socle qui va avec. Hein. Il y a des armatures en fer avec, mais bon, il pèse son poids. Et la pièce la plus lourde du remontage, c'est le bassin. Enfin, une partie du bassin et des vertèbres qui vont avec, du sacrum, qui pèse 600 kilos.
Wow.
Et donc, c'est la première pièce qui a été posée dans le puzzle.
Après, oui, parce que c'est un puzzle, mais là, il faut rappeler que c'est le véritable squelette, c'est pas un moulage. Hein.
Voilà, donc c'est le véritable squelette. Enfin, il y a quelques parties qui sont moulées, mais la plupart, c'est quand même de l'original. Donc, ça pèse son poids. Et il faut sécuriser ces pièces, puisqu'elles sont uniques. Donc, il est hors de question que les vertèbres puissent tomber à n'importe quel moment. Et pourtant, ils ont réussi à faire un soclage qui est assez impressionnant. Alors, en même temps, ça fait longtemps qu'on socle des dinosaures. Mais là, l'idée était en plus la position avec le crâne qui est très en amont. C'est la première fois en fait qu'on monte le squelette original sur le crâne original sur un squelette original. La plupart du temps, on a les squelettes qui sont montés avec les originaux, mais les crânes qui sont rajoutés sont des moulages et le crâne original est souvent conservé à part.
Et le face-à-face, vous l'avez dit, hein, Cécile, Colin Froment est vraiment impressionnant avec ce véritable crâne de Trix autour de la question des dinosaures en général et des T-Rex en particulier. Nouvelle question tout de suite soulevée par Mathieu Novak du mensuel Science et Avenir.
Sur le très beau squelette que l'on peut voir au muséum, on voit sur la mâchoire des impacts de dents. Sachant que c'était le plus grand des dinosaures et qu'il n'avait pas de prédateur, qu'est-ce qui a pu le mordre ?
Votre réponse, Renaud Alain.
Un autre T-Rex.
Ah, c'est ça. Il n'y a qu'un autre ouais. T-Rex qui pouvait s'attaquer à un T-Rex.
Exactement. Surtout, on connaît bien les faunes de cette époque de dinosaures. Et alors, ce qui est très étonnant, je disais tout à l'heure que le T-Rex était fait pour être un gros prédateur. Ce qui est très étonnant, c'est que quand on regarde les carnivores qui vivent à l'époque du tyrannosaure, on a le tyrannosaure et après, il faut descendre de la gamme de taille en dessous pour les carnivores et 4 à 5 fois moins grand. Donc, on a plein de petits carnivores, mais aucun qui fait plus de 5 ou 6 mètres de long.
Donc vraiment, le T-Rex était le plus grand des prédateurs et celui contre lequel seuls d'autres T-Rex pouvaient...
Voilà, alors là, les Trix apparemment n'est pas morte des conséquences de cette blessure. Donc c'était sans doute une rencontre un petit peu vive entre deux tyrannosaures.
Ça devait être monstrueux quand on essaye d'imaginer ça, des 8 tonnes qui rencontrent un autre 8 tonnes.
Ils se sont donnés un petit coup de dent. De temps en temps, les chiens se donnent des petits coups de dent aussi quand vous les voyez. Bon là, les petits coups de dent laissent des grosses marques. Et on ne sait pas évidemment ce qui est à l'origine. Est-ce que c'était une lutte pour un territoire, pour une proie? Est-ce que c'était une espèce de un combat entre mâles, femelles ou entre deux mâles? Enfin, on peut tout supposer, mais par contre, la chose dont on est sûr, c'est que ces traces ont vraiment été laissées par notre T-Rex.
C'est vraiment, on est entre fantasme et réalité, mais ils sont fascinants pour ça, mais on se dit quand même que ça devait être assez terrible, assez monstrueux. Est-ce qu'on a une idée de la manière dont ils vivaient, ces T-Rex, c'est plus terrible prédateur de tous les temps, on peut le dire comme ça, c'est pas pour rien s'ils habitent comme ça notre imaginaire et nos fantasmes.
Alors ils sont, c'est peut-être là où on a le plus de progrès à faire encore sur le tyrannosaure. Le tyrannosaure est le dinosaure qui a été le plus étudié, mais en même temps on n'en sait pas beaucoup sur son comportement, sur le fait de savoir s'il y avait des structures sociales ou pas, est-ce qu'il y avait des troupeaux de T-Rex, si oui à quel âge.
Troupeaux de T-Rex.
Ah, sans doute quand ils étaient petits, ils devaient vivre tous ensemble en des espèces de petites meutes, mais on le sait pas vraiment. Donc on n'a pas d'éléments, on n'a jamais trouvé ce qu'on appelle des bone beds dans le jargon, c'est-à-dire des gisements dans lesquels on a plusieurs squelettes de tyrannosaures. On a chaque fois qu'on trouve un tyrannosaure, c'est souvent des squelettes isolés, donc qui laissent plutôt présager que c'est des animaux qui vivaient en solitaire. Bon, il fallait bien qu'ils se rencontrent de temps en temps pour se reproduire et pour tout un tas d'autres choses. Mais voilà, on a besoin d'en savoir plus, trouver peut-être plus de petits tyrannosaures pour voir s'ils vivaient ensemble ou pas, pour comprendre comment ils vivaient. Après, comment l'individu vivait, ça on le sait, on connaît les proies du T-Rex puisqu'on a des dinosaures à bec de canard, hein, Edmontosaurus.
Dinosaures à bec de canard.
Voilà, on appelle ça des hadrosaures. Et on en a un présenté dans l'exposition, justement, qu'on a exhumé de nos collections. Et donc, notre Edmontosaurus, on connaît des squelettes d'Edmontosaurus dans lesquels on a trouvé fiché, par exemple, dans la queue, des dents de T-Rex. L'animal l'a mordu, il a perdu une dent qui restait dans la queue, et l'animal a vécu toute sa vie avec une dent de T-Rex fichée dans la queue, ça ne le dérangeait pas. Donc ça veut dire que les herbivores pouvaient survivre aux attaques de T-Rex.
Mais que les T-Rex étaient quand même aussi agressifs qu'on l'imagine ou qu'on le voit dans les
films.
Non,
il n'y a aucune raison qu'ils soient plus agressifs que ça. Ils ont juste besoin de manger une certaine quantité de viande, mais imaginez...
Une sacrée quantité quand même. Hein.
On estime que c'est à peu près 50 kilos par jour, sauf que le T-Rex ne mange pas 50 kilos par jour, c'est juste une moyenne. Comme tous les reptiles, le T-Rex il se nourrit de temps en temps, mais vous imaginez un T-Rex qui va tuer, admettons, un hadrosaure ou un tricératops qui va faire 3 ou 4 tonnes. Une fois qu'il a fini de dévorer la carcasse, il est tranquille pour quelques jours, voire plusieurs semaines.
Le savoir des paléontologues, les connaissances sur les dinosaures n'ont cessé d'évoluer au cours de ces dernières années. On sait maintenant que certains, alors pas du tout le T-Rex, mais d'autres plus petits, avaient probablement des plumes ou de la fourrure. On sait que les oiseaux descendent des dinosaures. Il y a vraiment le savoir a vraiment avancé, alors peut-être pas tant que ça sur le T-Rex si impressionnant, mais sur toutes les familles et la grande diversité des dinosaures, Renaud Alain.
Oui, alors il y a deux façons de faire avancer la paléontologie. Il y a une façon, c'est d'étudier les dinosaures sous de nouveaux aspects. Donc ça, c'est lié avec les développements technologiques, l'utilisation des CT scans, l'utilisation de la géochimie, enfin voilà. Donc tout un tas de façons d'appréhender le fossile d'une autre façon. Donc ça,
sans l'abîmer, hein, pouvoir aller loin.
Sans l'abîmer. Des fois, il y en a qui l'abîment un petit peu. nos collègues histologistes qui aiment bien couper les os pour voir comment ça se passe.
Ah oui, là, c'est pas bon.
Et donc c'est là sur le T-Rex, justement, on a appris qu'il y avait des taux de croissance assez incroyables. Où l'animal peut grossir de plusieurs, jusqu'à 2 kilos par jour vers 7 ou 8 ans. Donc, c'est des croissances énormes. Donc, ça on le sait grâce à des études récentes. Et puis, l'autre façon, justement, d'avancer en paléontologie, c'est de trouver des nouveaux fossiles. Parce qu'il ne faut pas oublier que à la base du travail du paléontologue, il y a un fossile. Donc le fossile, il faut aller le chercher sur le terrain. Et des découvertes comme Trix, ou peut-être des découvertes ultérieures, je parlais tout à l'heure de découvertes de gisements avec plusieurs tyrannosaures, vont nous en apprendre encore aussi beaucoup. Et pour les plumes, c'est le cas. Les plumes, le T-Rex aurait pu avoir des plumes, puisque les anciens tyrannosaures, les très lointains ancêtres du T-Rex, il y a 150 millions d'années, avaient des plumes. Mais le T-Rex est tellement gros qu'il a perdu ses plumes, il n'en avait pas besoin, et on sait qu'on a des écailles, des traces de peau de T-Rex, et ça c'est des fossiles qui avaient justement été oubliés. Dans les années 20, on avait trouvé des empreintes de peau de tyrannosaures.
De peau de tyrannosaures.
Voilà, l'empreinte de la peau qui était imprimée sur le sédiment, et donc on voit des petites structures écailleuses. Hein, donc
là on sait que c'était des écailles.
Voilà, on sait que c'était des écailles, il n'y a pas de protoplumes chez le T-Rex.
Autour de la question des dinosaures, on écoute le chant du Vélociraptor version rock, le groupe de rock anglais Kasabian sur RFI. Blast off, he tried to shoot you with precision, take your face off. Young disciple, it's a lie, he was hung up by the meaning of existence, he'll be let down, so don't you follow in your eyes. Kasabian sur RFI, Vélociraptor en version néo-psychédélique. Vélociraptor, il aurait pu croiser T-Rex ou la femelle Trix exposée au muséum, Renaud Alain.
Alors, le Vélociraptor, il a croisé Tarbosaurus, qui est le cousin du T-Rex, et oui. Ça se passe de l'autre côté du Pacifique, donc ça se passe en Asie à ce moment-là. Par contre, il y a des cousins du Vélociraptor qui ont croisé Trix en Amérique du Nord.
Qui ont croisé Trix, le plus célèbre des dinosaures, le plus emblématique, qui peuple notre imaginaire, surtout depuis, il faut le dire, depuis Jurassic Park de Spielberg. Je propose d'écouter Cécile et Renan, la bande-annonce de Jurassic World, le cinquième opus de la série des Jurassic. Vous l'avez vu, je crois, vous me donnerez votre avis de spécialiste juste après.
Ces animaux méritent-ils d'être protégés comme les autres espèces? Ou faut-il les laisser mourir?
Ces créatures étaient là bien avant nous. Et si on n'y prend pas garde, elles seront encore là bien après. La vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large. La vie trouve toujours un chemin.
Cécile Collin-Fromont, vous avez vu ce dernier opus Jurassic World. Ça vous paraît, à vous qui dirigez la galerie paléontologie du muséum, ça vous paraît... Ben, vous avez aimé déjà.
Alors, voilà, moi je plonge dedans. J'y suis allée avec mon petit qui a 10 ans. Et c'est vrai que c'est surtout magique de voir tous ces enfants qui crient, qui ont peur en voyant ces dinosaures qui se battent, qui attaquent.
Vous n'avez pas le regard de la spécialiste qui se dit « Ouh là, là, c'est un peu exagéré ou... ?»
Alors, en fait, moi, j'essaie justement de passer à côté de ça. À la fois, je ne suis pas hyper spécialiste des dinosaures. Moi, j'essaie juste de raconter des choses sur les dinosaures pour que les gens comprennent un petit peu comment... Voilà ce qu'ils sont, comment ils vivaient, comment on les trouve. Et je trouve que voilà, ces films, même si scientifiquement, je pense que Ronan aurait plein de choses à dire, ont sans doute des petits défauts. Je pense que ça marche. Et il y a une réplique dans le film que j'ai beaucoup aimée. Du coup, c'est on les voit, on les a vus dans les livres qu'on a feuilletés tout petit. On est allé les voir leur squelette au musée. Et là, tout d'un coup, on les voit comme si c'était dans la vraie vie, comme si c'était... Ça pourrait être un documentaire animalier, quelque part, des animaux qui n'existent plus. Et je pense que nos petits visiteurs en ont sans doute rêvé la nuit. Quand ils ont vu Trix, je ne sais pas s'ils ont vu un squelette déjà. Parfois, ils ont peut-être vu un spécimen en chair et en os. Et en tout cas, quand ils ressortent de l'expo, peut-être qu'ils voient un vrai Trix qui va les accompagner quelque temps.
Et il peut faire le parallèle avec le film. Vous-même, Ronan Alain, vous avez vu, je pense que vous avez vu toute la série. Celui-là vous plaît
Alors, j'ai préféré celui-là au précédent. Le précédent, ça avait été un petit peu la purge, je dois dire. celui-là, je l'ai trouvé sympa. Parce que je m'attendais à plein d'animaux génétiquement modifiés, mais non, on ne les a pas encore. Je pense que ce sera pour le prochain. Et donc, on retrouve les classiques de Jurassic Park. Ils nous annonçaient plein de dinosaures, mais il n'y en a pas autant de nouveaux que ça. Il y a juste un petit stygimoloque.
Un petit
pachycéphalosaure qui a un gros crâne qui défonce tous les murs, que j'ai trouvé très rigolo. C'était un petit peu le rigolo de l'histoire. Et puis après, au niveau de l'animation, je pense qu'on a déjà un petit peu tout dit. Le travail qu'avait déjà fait Spielberg à l'époque, en 93, était déjà remarquable.
Très
impressionnant. Et ce que j'ai bien aimé dans celui-là, ce qu'on retrouve un peu l'esprit des premiers, c'est qu'il y a encore l'utilisation d'animatronics. Et c'est pas que de l'image de synthèse. L'image de synthèse a tendance à être très très fatigante et souvent pas toujours bienvenue. Et là, ils sont revenus aussi un petit peu avec plus d'animatronics et je trouve que ça se sent. Bon, après le scénario, c'est le même scénario que le deuxième Jurassic Park, ce qui était prévu en amont.
Ça pousse peut-être les petits enfants qui viennent dans la galerie à vouloir aussi devenir paléontologues. Ça peut leur donner envie.
Oui, alors j'ai regardé le tyrannosaure dans le dernier, j'aime bien parce qu'on le voit très peu le tyrannosaure dans le dernier, à chaque fois qu'on le voit il passe et il mange un autre dinosaure, donc on le voit passer, boum, il attrape un dinosaure et il s'en va. J'ai trouvé que c'était assez rigolo aussi la façon dont ils avaient traité le tyrannosaure, mais on a l'impression que le tyrannosaure dans ces Jurassic Park est toujours là pour suppléer aux défaillances des héros qui malheureusement sont toujours acculés quelque part face à un troupeau de dinosaures.
Heureusement, il y a un tyrannosaure qui est là,
donc finalement le tyrannosaure est plutôt un dinosaure gentil pour les êtres humains.
C'est ça. Autour de la question de notre représentation des dinosaures, justement une nouvelle question pour vous, soulevée par un herpétologue spécialiste des serpents, Xavier Bonnet, qui était récemment notre invité.
On les montre toujours comme des monstres tonitruants en train de faire du vacarme. Moi qui étudie les animaux dans la nature, j'observe qu'ils ne passent pas leur temps à faire ça, c'est pas viable. Et je suppose qu'ils étaient, certains devaient être très jolis, et ne passaient pas leur temps à hurler. Et notamment les carnivores qui n'ont pas besoin de manger si souvent que ça, quoi. Donc je trouve que cette image elle est où on en fait des espèces de zombies abominables est certainement fausse. Je veux dire, sur le plan de la sélection naturelle, je trouve qu'elle ne tient pas. Et j'ai la même remarque avec ce qui s'est passé pour l'homme pendant très longtemps. Quand j'étais encore au lycée, on nous représentait l'évolution de l'homme avec nos ancêtres, que dans la guerre du feu, des espèces de barbares monstrueux qui se tapaient dessus. Enfin, c'est pas possible. Moi, j'avais pas ça comme ancêtre. Hein.
Que pouvez vous répondre, Ronan Alain, à cette réflexion intéressante
Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui est dit là-dedans.
On entend la bande-son de l'exposition.
Oui, c'est la bande-son de l'expo.
Voilà, composée par Edgar Nicoulot, justement.
C'est ça, on va en reparler justement, parce qu'on en a reparlé avec Edgar, donc, qui est un compositeur. Et en fait, Edgar a quand même cherché à savoir comment, quel bruit et comment les reptiles produisaient des sons. Et en fait, les quelques reptiles qui produisent des sons, quand ils produisent des sons, ils le font la bouche fermée. En fait, le crâne va servir un petit peu de caisse de résonance.
Ah, la bouche fermée.
Voilà. Donc quand on voit le T-Rex qui ouvre la bouche et qui fait groar, et ben non, en fait, il devait faire groar, mais la bouche fermée.
D'accord, on voyait pas ses grandes dents.
Voilà, on voyait pas ses grandes dents. Donc c'est marrant. Et vous prenez un crocodile, en fait, quand le crocodile ouvre la bouche, la plupart du temps, c'est quand il a besoin de faire baisser sa température, c'est pour respirer, c'est mieux ventilé. Évidemment pour manger aussi, mais sinon la bouche la plupart du temps est fermée. Donc les dinosaures devaient effectivement avoir la bouche fermée. Le T-Rex n'avait pas besoin de faire peur.
Oui, déjà rien que de le voir arriver, c'était fini.
Un triceratops, voilà, c'était déjà les animaux devaient pas être très très rassurés. Mais après, les animaux en face étaient de grande taille aussi, et certains devaient produire des sons justement. Ce qui est plus intéressant, c'est pas tellement le T-Rex, c'est on a des animaux qui ont des structures bizarres, des cornes au-dessus, parmi les becs de canard, des cornes, et on sait
d'autres dinosaures.
Voilà,
hein,
d'autres dinosaures qui devaient peut-être pouvoir produire des sons qui peut-être eux pouvaient effrayer le T-Rex.
C'est compliqué, hein, de se faire. Wow, je sais pas ce qu'on entend crier là, mais c'est compliqué de se faire une juste représentation à la fois de cette époque, de ces dinosaures. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça peuple complètement notre imaginaire, mais une juste représentation pour le scientifique que vous êtes.
Alors, il faut juste mesure garder, je veux dire, il faut juste essayer de ce que disait le collègue herpétologue, de regarder comment vivent les animaux actuels et se dire que le tyrannosaure ne fait ni plus ni moins que les animaux actuels. C'est le principe d'actualisme qu'on utilise très souvent en paléontologie. Et voilà, faut pas imaginer des choses qui n'existent pas en nature actuelle chez les tyrannosaures. Ils ont un mode de vie, ils ont besoin de manger, mais pas tout le temps. Il n'y a aucune raison qu'ils attaquent les autres dinosaures, surtout qu'ils risquent d'être blessés, donc ça peut être fatal pour eux. Donc voilà, ils ont un mode de vie tout à fait normal pour des animaux. La seule chose, c'est qu'ils sont très très grands. Quoi.
C'est ça, il y a une grosse, grosse différence d'échelle autour de la question des dinosaures. Je propose d'écouter T-Rex, non, le groupe T-Rex, et leur chanson phare qui nous renvoie à un autre film de cinéma, Billy Elliot, si vous vous souvenez, Cosmic Dancer, T-Rex sur RFI.
I was dancing when I was 12.
Autour.
I was dancing when I was 12.
De la question.
I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I danced myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Strange to dance so late. Is it strange to dance so late?
Cosmic Dancer, le groupe T-Rex sur RFI. On pourrait presque imaginer Trix ou les T-Rex ou d'autres dinosaures évoluer, comment, peut-être pas en dansant, comment on fait pour se déplacer quand on est dinosaure et qu'on pèse combien, on a dit 8 tonnes.
8 tonnes, oui, ça va dépendre des animaux en fait, parce qu'il y a des tout petits dinosaures, donc il y en a même qui sont mis à voler, donc peut se déplacer de multiples façons. Pour un T-Rex, on se déplace, on a des gros gros muscles parce qu'on a un gros corps, mais on se déplace tranquillement, on ne doit pas excéder les 20 km/h parce que c'est incompatible avec la taille de l'animal, puis surtout c'est incompatible avec les besoins de l'animal. un animal de la taille du T-Rex va chasser, on a dit, des très très gros dinosaures. Et ces très très gros dinosaures, ils ne courent pas 50 km/h.
Donc c'est placide au fond.
Ouais, pourquoi s'embêter à courir à 50 km/h quand vous pouvez rattraper un tricératops ou un adrosaure? Donc voilà, je pense qu'il y a pas, on ne faut pas imaginer le T-Rex comme même un lion ou un guépard qui va poursuivre sa proie. Et les adrosaures n'ont jamais été des antilopes. Hein,
les adrosaures, c'est les moyens, les becs de canard qui font faire 10 ou 11 mètres de long aussi.
Donc voilà, ces animaux-là vont pas si vite que ça. Par contre, les adrosaures devaient vivre en troupeau, ça on le sait. Et un T-Rex ne s'attaquait pas à un troupeau de adrosaures s'il y en a 6 ou 7 qui font front. C'est vraiment le même principe d'actualisme. Un lion va pas s'attaquer à 6 gnous qui sont en face de lui, quoi. Il va passer son chemin et puis il attendra un moment plus propice pour aller se nourrir.
Autour de la question des dinosaures, on en arrive à la grande question soulevée par l'écologue Jacques Tassin.
Cette question de la disparition des dinosaures, qu'est-ce que ça représente? Quand on pense disparition, on a l'impression que ça s'est fait du jour au lendemain, on parle de cataclysme. Est-ce que finalement c'est l'hypothèse la plus fiable? Parce que ça peut très bien s'envisager différemment, ça s'est peut-être échelonné sur des millions d'années, donc j'aimerais bien en savoir un peu plus.
Est-ce que vous en savez un peu plus sur la disparition des dinosaures?
J'aimerais bien en savoir un peu plus aussi. Ce qu'on sait, il faut faire bien la part des choses. D'un côté, il y a des faits biologiques, donc tout un tas d'animaux qui disparaissent, aussi bien des dinosaures que des ammonites, des reptiles marins. Donc le fait qu'il y ait une extinction à la fin du Crétacé, ça c'est une certitude.
Dû à la chute d'une météorite.
On passe maintenant du côté géologique, et géologique, on sait qu'il y a une météorite qui tombe. Ça aussi c'est une certitude, personne ne le conteste. On a tout un tas de preuves qui viennent de différentes observations qui nous disent qu'une météorite s'est écrasée sur Terre. On sait aussi qu'on a du volcanisme au niveau des trappes du Deccan. Ça aussi, c'est une certitude. Après, il faut faire coller tout ça en même temps. Et là, on commence à rentrer dans les hypothèses scientifiques. Donc, les dinosaures, c'est sûr, Jacques Tassin s'en doute bien, les dinosaures n'ont pas disparu en une semaine. Ça a pris beaucoup de temps, ça a sans doute pris des dizaines ou des centaines de milliers d'années. Maintenant, il faut s'y voir le paléontologue qui arrive et qui, lui, va retrouver ses gisements. On n'a pas un découpage au millier d'années près. Nous, on travaille de temps en temps, on a des lacunes de 2, 3, 4 millions d'années. Donc, nous, on peut juste constater que les dinosaures disparaissent et après, on peut essayer de modéliser cette disparition. Mais probablement, un jour, on va trouver des dinosaures dans le tertiaire, c'est-à-dire au début de l'ère tertiaire, qui auront passé la crise et ça changera rien du tout au modèle et au coupable, en fait.
C'est-à-dire que les dinosaures ont bien disparu sur une échelle de temps beaucoup plus longue que ce qu'on peut imaginer.
Mais
il n'y en a
courte.
Plus aujourd'hui voilà. Sur Terre, sauf les oiseaux.
Sauf les oiseaux, c'est ça. Donc, ils n'ont pas vraiment disparu puisqu'il y a les oiseaux, mais les grands dinosaures disparaissent. Et c'est très court à l'échelle géologique, mais ça s'est fait sur un temps beaucoup plus long qui est celui que les écologues ont l'habitude de manier.
Je propose d'achever, j'ai envie de dire, pour aujourd'hui, nos interrogations sur les dinosaures avec un dernier éclairage en forme de question soulevé par le physicien, auteur et journaliste scientifique Sven Ortoli, qui a beaucoup écrit sur les dinosaures parce qu'il a été le fondateur de Science et Vie Junior. On l'écoute.
Au fond, si vous regardez l'histoire des dinosaures ou l'histoire de notre relation aux dinosaures, vous vous posez toutes les questions concernant le destin de l'humanité. C'est-à-dire, les dinosaures nous tendent un grand miroir. Lequel et qu'est-ce qu'on voit dedans ?
Quel miroir nous tendent les dinosaures, non Alain ?
Celui de quel est le futur de l'humanité. Pour celui des dinosaures, on le connaît, puisque effectivement, heureusement, il y a 160 millions d'années, il y a un petit groupe de dinosaures qui a commencé à quitter le sol, donc qui a donné les oiseaux. Donc les oiseaux sont des dinosaures à part entière. Les oiseaux portent l'ADN des dinosaures. Et les oiseaux, aujourd'hui, dans la nature actuelle, se représentent à peu près 10 000 espèces. Donc c'est un groupe qui est finalement relativement diversifié et qui a encore sans doute beaucoup d'avenir devant lui, parce que les oiseaux, vous les retrouvez dans tous les écosystèmes et ils sont adaptés à tous les milieux. Vous en avez qui nagent, qui volent, très haut, pas très haut, il y en a qui fouissent. Donc les oiseaux ont des adaptations à peu près à tout ce qu'on connaît dans la nature actuelle. Pour l'homme, déjà, l'homme, c'est très restreint, puisque nous, on fait partie du groupe des mammifères. Déjà, les mammifères, il y en a beaucoup moins que de dinosaures, du coup, on est à 3500, 4000 mammifères. l'homme, c'est un épiphénomène au sein des mammifères. Et donc, effectivement, on peut se poser cette question. Nous, a priori, on n'a pas laissé en arrière un autre groupe qui ressemble, ou du moins qui a développé nos capacités cognitives. Donc, on peut se poser effectivement la question du devenir de l'humanité sur des grandes échelles géologiques. Je ne parle même pas à l'échelle de 100 ans ou de 200 ans, mais sur les grandes échelles géologiques, est-ce qu'on sera capable de se maintenir autant que les dinosaures? J'ai pas la réponse. Hein.
Ils se sont maintenus extrêmement longtemps, les dinosaures, avant même de devenir. Enfin, finalement, ils se maintiennent toujours. C'est quoi? C'est peut-être dinosaures, oiseaux, l'espèce animale qui a le plus réussi sur la planète Terre?
Pas forcément, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier aussi que les premiers mammifères apparaissent en même temps que les premiers dinosaures. Donc l'histoire des mammifères et des dinosaures, elle est liée. On peut pas prendre les lignées différentes, et c'est aussi celle des crocodiles, on pourrait dire. Donc tout ça apparaît en grosso modo il y a 235 millions d'années. À un moment, on va avoir des gros dinosaures et des petits mammifères, mais des mammifères qui sont très diversifiés à l'époque des dinosaures. Il faut pas ranger tous les mammifères dans le même panier pendant 160 millions d'années. Eux aussi ont évolué de leur côté.
Et sauf après, qu'ils ont pu grossir après la disparition des dinosaures.
Les dinosaures leur ont barré le chemin sur les gros de gros animaux. Donc on les retrouve difficilement dans les archives fossiles. Par contre, après 65 millions d'années, on leur redonne une chance, et là les mammifères vont arriver à des animaux à grande taille, ils vont développer notre branche, celle des primates. Donc on est juste un maillon de cette grande histoire. Les oiseaux actuels sont un maillon de cette histoire.
Ça relativise, en fait. D'abord, ça nous parle, évidemment, peut-être pour ça aussi que ça nous touche tant aujourd'hui. Ça nous rappelle les monstres de nos enfants, de notre enfance, mais ça nous touche aussi parce que ça nous rappelle notre propre disparition possible. Ça nous renvoie quand même beaucoup à nous-mêmes.
Déjà, d'un point de vue personnel, on est tous des êtres vivants, donc on est tous condamnés à mourir un jour. Et puis d'un point de vue au niveau de l'espèce, c'est pareil, l'espèce forcément va disparaître. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'elle va évoluer?
Grande question. Cécile Collin-Fromont, est-ce que vous avez l'impression que les visiteurs, justement, alors à la fois de cette formidable exposition du squelette de cette femelle T-Rex, mais aussi de la galerie de paléontologie en général, justement, ressortent avec ce genre d'interrogation encore plus forte peut-être quand ils sont rentrés dans le muséum?
Oui, je pense que d'être confronté directement à un squelette où on peut appréhender la taille, la forme, la hauteur, ça nous ramène toujours à des questions existentielles. Et je pense que, voilà, une fois qu'on a vu T-Rex, une fois qu'on va dans la galerie de paléontologie, mais d'anatomie comparée aussi, où on voit toute cette diversité animale, en fait.
C'est
on
ça.
On dit tout ça, c'est plongé. Alors, l'anatomie comparée, c'est les animaux qu'on croise, qu'on peut croiser aujourd'hui. Et on monte d'un étage, la paléontologie, tous ceux qu'ont peuplé cette planète qu'on habite maintenant. Je pense que forcément, ça fait poser plein de questions de notre rôle aussi sur la planète.
Sur la planète. Merci infiniment Cécile Collin-Fromont, merci Ronan Alain d'être venu en direct partager toutes ces interrogations sur les dinosaures en général, T-Rex en particulier. Un T-Rex à Paris, c'est à voir absolument au Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est jusqu'au 2 septembre, peut-être une prolongation possible, on ne sait pas. Une rencontre en tout cas dont on se remet difficilement avec T-Rex, et puis bien sûr tous les autres dinosaures et tous les autres animaux de la galerie de paléontologie en cette saison de la paléontologie au muséum, qui se poursuivra avec la Fossil Week, 5e congrès international de paléontologie, du 9 au 13 juillet. Je ne sais pas si j'ai dit que c'était les 120 ans de la galerie. Je signale aussi qu'il y aura de nombreuses autres manifestations dans cette saison estivale. Également un très beau livre pour tous les amateurs, Un jour avec les dinosaures, coédité par Flammarion et le muséum, écrit par Christine Argaud, Luc Vives, avec de magnifiques photos d'Éric Sander. Merci à vous, vous revenez quand vous voulez nous parler des dinosaures.
Pour nous contacter, autour de la question, @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli Pure Radio, RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain autour de la question, d'une grande question. Quand les hommes ont-ils inventé la guerre et avec quelles armes? La préhistorienne Anne Loerf, spécialiste de l'âge du bronze et donc des toutes premières épées, nous proposera de remonter aux origines de la guerre par les armes. Avec Nicolas Benita à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, merci de votre curiosité. Dans quelques instants, une minute après les bandes annonces, un prochain journal sur RFI.
Appel sur la